Vous écoutez RTL.
7h41, merci d'écouter RTL. Olivier Mazerolle, François Langlais, vous recevez ce matin le Premier ministre Manuel Valls.
Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Olivier Mazerolle.
C'est un moment important, peut-être un marqueur du quinquennat, que cette loi El Khomri, en tout cas ce projet de loi, s'il est adopté, il peut changer l'identité de la gauche et la manière dont les Français vont regarder la gauche. Avant de parler au fond de cette question, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser sur ce sujet avec François Langlais, je voudrais vous parler une seconde de la méthode. Sur Facebook, vous dites « J'entends réformer ce pays, je veux bien de discussion avec le Parlement, mais je veux réformer ce pays. Le 49-3 est toujours là, en réserve, si nécessaire ?»
Mais moi, je veux convaincre, et d'abord les Français, que cette réforme du droit du travail est utile. Tout le monde refuse le chômage. Tout le monde refuse la précarité. Tout le monde refuse, mais quand on propose, alors à ce moment-là, on se lève pour dire il ne faut pas le faire. Nous vivons avec un chômage de masse depuis 30 ans. Nous avons aujourd'hui plus de 3,5 millions de chômeurs. Donc c'est vers eux que je veux me tourner, vers tous ceux qui ne trouvent pas d'emploi, qui veulent accéder à l'emploi, qui sont au chômage depuis des années, qui cherchent un emploi malgré leur diplôme ou leur qualification.
Les Français, pour convaincre les députés ?
Mais je veux convaincre les Français, et je veux convaincre, bien sûr, avec Myriam El Khomri, une majorité de députés, et de députés de gauche d'abord, pour adopter cette loi.
Et s'il le faut, le 49-3 ?
Mais je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui la question essentielle pour les Français.
Non, mais ça a braqué beaucoup de
mais
gens.
Mais je veux rappeler uniquement la méthode. Un texte a été arbitré par le président de la République, par moi-même, par les ministres concernés par le texte, et bien sûr d'abord la ministre du Travail. Ce texte, c'est ainsi que la République fonctionne, est envoyé ensuite au Conseil d'État pour qu'il donne un avis juridique. Ensuite, le Conseil des ministres va l'adopter le 9 mars. Le texte ensuite sera examiné par la commission compétente de l'Assemblée nationale. Et il viendra au débat dans l'hémicycle avec les modifications que les députés auront déjà apportées dans ce travail en commission le 4 avril. Et le débat va se poursuivre. Donc il faut à la fois convaincre les parlementaires, continuer la discussion avec les partenaires sociaux, parce qu'il y a une autre discussion qui est parallèle à ce texte, qui est dans la main des partenaires sociaux, celles qui concernent l'assurance chômage, avec des points de rencontre, peut-être avec le texte dont nous débattons. Et puis, il faut convaincre une majorité. Mais si nous considérons que ce texte est utile pour lutter contre le chômage, pour l'emploi, pour donner davantage de souplesse aux entreprises, pour donner aussi des droits aux salariés, c'est parce que nous souhaitons garder cette ossature au moment du débat parlementaire. Mais pourquoi préjuger de l'intelligence collective du Parlement.
Et, très bien.
Pardon, alors, Olivier Mazerolle, un problème y compris de méthode. Rappelez-vous, après les élections régionales, avec le score du Front National, avec l'unité nationale qui, d'une certaine manière, s'est construite dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Sud-Est et dans l'Est. Là où j'ai appelé, où nous avons appelé à voter pour des candidats de la droite pour faire reculer le Front National, et les électeurs de gauche l'ont entendu. Après cela, chacun a parlé de nouveau d'unité nationale. Unité nationale contre le terrorisme, mais rassemblement aussi pour lutter contre le chômage. Et on oublie très vite ces bonnes résolutions. On oublie très vite ce que les Français attendent de nous, que nous soyons capables de dépasser les clivages traditionnels. Et bien voilà, sur ce texte, qui est un texte républicain, qui ne renie en rien nos valeurs, qui protège les salariés, qui n'enlève aucun droit aux salariés, mais qui donne plus de possibilités aux entreprises, moi j'en appelle là aussi à un débat serein, intelligent, qui permettent de dépasser les clivages entre les partenaires sociaux, mais aussi entre les formations politiques de ce pays.
Quand on vous entend ce matin, quand on lit votre page Facebook, nous devons casser la logique des demi-mesures, chercher des solutions neuves et audacieuses, vous apparaissez presque comme libéré, comme si enfin le moment de l'action sans réserve était arrivé. Moi, j'ai en mémoire le livre que vous avez écrit il y a 8 ans, avec ce titre, pour en finir avec le vieux socialisme et être enfin de gauche. Ça y est, c'est le passage à l'acte ?
Mais non, mais ces notions de droite et de gauche...
Non, c'est pas une notion de gauche et de droite. C'est qu'est-ce que la gauche, le vieux socialisme et être enfin de gauche. Mais c'est vous qui aviez choisi
Olivier
ce titre.
Mazerolle, je suis chef du gouvernement, je suis Premier ministre, je suis dans l'action. Ce qui m'intéresse, c'est que le chômeur qui est sans emploi depuis des mois ou des années trouve un emploi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que le chef d'entreprise, notamment patron d'une PME, puisse embaucher qui n'ait plus peur.
Il y a bien la bagarre entre la gauche moderne et la gauche passéiste. Vous-même, vous l'avez souligné à plusieurs reprises ces derniers mois encore.
Eh bien, moi, je suis dans la réalité. Et ce que je souhaite, c'est que la gauche, mais d'une manière générale, les forces politiques de ce pays, les forces sociales, soient dans la réalité. Et la réalité, c'est de faire reculer le chômage. Alors... c'est de donner plus de force et plus de compétitivité à notre pays. C'est y compris d'aller chercher les exemples. Il y en a en Allemagne, en Italie, en Espagne, sur ce qui marche. Nous avons beaucoup fait pour baisser le coût du travail et la fiscalité sur les entreprises. 40 milliards, c'est le pacte de responsabilité et de solidarité. Nous continuons à soutenir les entreprises. Il y a cette aide à l'embauche pour les PME et qui marche bien aujourd'hui. 2000 euros pour chaque embauche. Mais il faut aller encore plus loin. Et quel est le problème français? C'est qu'il y a trop de rigidité sur notre marché du travail. Et être de gauche, Olivier Mazerolle, c'est regarder la réalité en face. Le progressisme, c'est faire en sorte que les salariés qui ont des droits puissent avoir des droits effectifs et réels. Et le progressisme, c'est faire en sorte que les entreprises, ça marche, ça embauche. Moi, je fais confiance aux entrepreneurs et aux salariés. Et cette loi, c'est un message de confiance aux entrepreneurs de ce pays, mais aussi aux salariés.
Justement, vous parlez de message de confiance aux entrepreneurs. Si votre réforme, votre projet de réforme désoriente les électeurs de gauche, on les a entendus ce matin sur RTL, c'est parce qu'il reprend largement les demandes du MEDEF en matière de flexibilité du temps de travail et des salaires. Vous pensez donc que pour réduire le chômage, c'est aux salariés du privé de faire des sacrifices sur ces deux sujets, alors qu'ils ont déjà subi, un, la crise avec la hausse du chômage, spécialement durant ce quinquennat, deux, des hausses d'impôts substantielles, spécialement pendant ce quinquennat, et trois, qu'on s'apprête à diminuer leurs indemnités de chômage. Est-ce que ça n'est pas un peu beaucoup?
Non, mais là, c'est la question des indemnités de chômage est liée au débat au sein de l'assurance chômage, l'UNEDIC, qui vient de commencer.
Pourquoi
et rien ne dit aujourd'hui
de faire
que...
des sacrifices, de faire des sacrifices aux salariés du privé, serait-il bon pour le chômage?
Mais je crois qu'il n'y a pas de sacrifice. Quand nous affirmons dans ce texte de loi les droits fondamentaux des salariés, c'est d'ailleurs les principes qui avaient été écrits et dictés par une commission présidée par Robert Badinter, mais quand nous créons le compte personnel d'activité qui donnera à chaque salarié, à chaque travailleur de ce pays, quel que soit son statut, la capacité de poursuivre, de construire son parcours professionnel dans un monde du travail en constante évolution, avec notamment la révolution informatique.
Plus facile, accord dérogatoire en matière de temps de travail. Attendez, ça c'est
d'abord,
quand même des éléments
d'abord,
de changement
important. D'abord, ce texte intègre ce qui n'a jamais été fait, ce compte personnel d'activité et ses droits. C'est ça là. Flexi-sécurité, le mot n'est pas très beau.
On voit bien la flexi, au fond, la sécurité un peu moins.
Au fond, les deux, c'est-à-dire de la flexibilité, de la souplesse pour les entreprises et pour de la sécurité pour les salariés. C'est le modèle danois, c'est le modèle suédois. Je suis d'ailleurs très frappé par le fait que ailleurs, dans les autres pays, je pense par exemple à la ministre du Travail social démocrate qui recevait Myriam El Khomri vendredi à Berlin, qui a salué ce texte comme un texte équilibré. Et je pourrais même rajouter gagnant-gagnant. Gagnant pour les entreprises et gagnant pour les salariés.
Mais écoutez,
excusez-moi.
Ma question.
Et si une entreprise.
Vous demandez des efforts aux salariés substantiels. Est-ce que. Quelle raison avez-vous de penser que ça peut faire baisser le chômage?
Prenons un cas très précis qui est la clarification de la définition du licenciement pour motif économique. Puisque c'est la question que vous me posez. À partir, et nous le faisons à partir de critères définis par le juge. C'est ce que nous intégrons dans le texte de loi que nous allons proposer. Et sur ce point, nous ne faisons ni plus ni moins que nous aligner sur les droits applicables qui existent dans les autres pays. Et ces points-là pourront par ailleurs être précisés par les partenaires sociaux par accord de branche. Désormais, la loi est applicable, intelligible et claire. Et parmi les critères reconnus par le juge que nous intégrons dans la loi, il y a une baisse de commandes ou du chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs, des pertes d'exploitation pendant plusieurs mois, une importante dégradation de trésorerie, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise. J'arrête là la liste. Au fond, ce que nous voulons démontrer, et c'est pour cela que ça va dans le bon sens pour pouvoir créer de l'emploi, c'est que le chef d'entreprise ne doit plus avoir peur d'embaucher parce qu'il aurait éventuellement peur demain de licencier.
Alors,
et c'est cette absence de confiance ou cette crainte, tout simplement, vous discutez beaucoup, François Langlais, avec des chefs d'entreprise, et notamment de PME ou d'ETI, c'est ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils nous disent. Nous avons peur d'embaucher parce que c'est très compliqué et si demain nous avons des difficultés, nous ne pourrons pas licencier. Et donc nous mettons cette souplesse, et c'est vrai aussi pour ce qui concerne le barème des indemnités prud'homales, pour donner plus de souplesse aux entreprises. Mais Ça veut dire quoi, donner plus de souplesse aux entreprises? Ça leur donne la possibilité d'embaucher davantage. Et donc, c'est bon pour l'emploi. Et si c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour les salariés.
Alors,
et c'est bon notamment
convaincu,
pour ceux qui sont au
vous
chômage.
Vous êtes convaincu, monsieur le Premier ministre, mais vous n'êtes pas troublé du tout par les doutes exprimés par bon nombre de vos ministres, Jean-Marc Ayrault, Marisol Touraine, Ségolène Royal, par Jean-Christophe Cambadélis, par le fait que les compliments vous viennent de la droite et très peu de la gauche?
Mais moi, je ne suis pas troublé et... par le débat, par la discussion. Je ne doute pas un seul instant que le 9 mars prochain, le texte sera adopté par le Conseil des ministres. Et ce que je demande, c'est à la fois aux ministres de s'engager pleinement, comme nous l'avons fait hier avec Myriam El Khomri et Emmanuel Macron, et que tous les ministres s'engagent, parce que c'est un défi considérable pour le pays. Quel est le problème de la France? C'est que quand nous subissons une crise très dure et très violente, au fond, notre filet social, notre protection sociale permet d'encaisser le choc de la crise, mieux qu'ailleurs, même s'il y a malheureusement beaucoup trop de chômage. Et la crise que nous avons connue n'a rien à voir avec ce que les États-Unis ou l'Espagne, par exemple, ont connu. Mais en revanche, quand il y a le retour de la croissance, elle est là, 1,1% en 2015, 1,5%, nous l'espérons, en 2016. C'est insuffisant. C'est insuffisant pour qu'on reprenne le chemin de l'emploi. Nous avons créé cette année. L'économie française a créé près de 50 000 emplois. C'est la première fois depuis plusieurs années. Mais c'est encore insuffisant parce que d'abord, nous avons une démographie positive. Nous avons un autre problème qui est celui d'un chômage de longue durée et de chômeurs peu qualifiés. Donc nous devons être capables d'offrir à notre économie et donc aux entreprises qui embauchent. Ce n'est pas l'État, ce sont les entreprises. C'est en fonction d'une économie ouverte.
Monsieur le Premier ministre,
nous devons donner toutes les facilités aux entreprises pour pouvoir embaucher.
Ce que vous devez convaincre, moi j'ai regardé votre page Facebook, il y a des réactions d'ouvriers qui vous disent que vous feriez mieux d'aller voir les ouvriers plutôt que les patrons. Vous-même, vous aviez écrit dans ce livre il y a 8 ans, j'ai adhéré à une gauche qui veut gouverner, et gouverner c'est forcément se trahir un peu. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'électeurs de gauche qui vous disent, c'est pas se trahir un peu, c'est se trahir beaucoup, énormément, vous avez dépassé la ligne jaune.
Mais moi, je rencontre et les salariés, et les ouvriers, et les électeurs de gauche. Je discute avec eux. Je rencontre des personnes qui sont sans emploi. Ce qu'ils demandent, ou ce qu'elles demandent, ces personnes, c'est de trouver un emploi. Cette loi ne met pas en cause la durée légale du temps de travail, qui est à 35 heures. Elle ne met pas en cause le CDI. Elle ne met pas en cause le CDI. Elle ne met pas en cause le SMIC. Elle va donner de nouveaux droits, droit à la formation, droit à la pénibilité pour les salariés. Elle donne de la souplesse et de la flexibilité aux entreprises. Mais je veux sortir, Olivier Mazerolle, et ça, je l'assume, d'une confrontation stérile entre, d'un côté, les entrepreneurs et les salariés. Quand j'ai dit, il y a 2 ans, que j'aimais l'entreprise, vive l'entreprise, j'ai dit tout simplement, qu'est-ce que c'était une entreprise? Une entreprise, c'est un chef d'entreprise. Ce sont des ingénieurs, des cadres, ce sont des salariés, ce sont des ouvriers qui tous sont fiers de l'entreprise et qui ont envie de leur réussite pour l'entreprise et bien sûr pour eux-mêmes. Donc, je veux sortir d'une vision caricaturale de l'entreprise et de la confrontation entre les uns et les autres. Et moi, je veux faire confiance aux entrepreneurs de ce pays et je veux donner plus de droits aux salariés et si en privilégiant la négociation sociale au niveau de l'entreprise, en privilégiant les accords majoritaires, mais aussi la possibilité de recourir à un référendum, ou plutôt à une consultation, si j'utilise le bon mot. Mais on donne plus de pouvoir aux salariés. On leur permet de passer des accords au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire là où, concrètement, on connaît bien la situation de l'entreprise et on peut adapter à ce moment-là l'organisation du temps de travail à la réalité de l'entreprise. C'est cette réalité-là qui doit s'imposer.
Si c'était ça, pourquoi tous les syndicats sont-ils unis contre votre projet? Il y a une intersyndicale qui se réunit aujourd'hui pour organiser la riposte contre le texte. Et il y aura là-dedans le principal syndicat réformiste, la CFDT, qui est tout à fait hostile à votre réforme et en particulier au nouveau droit du licenciement dont vous parliez à l'instant. Pourquoi n'avez-vous pas pris le soin de mettre à bord la CFDT, en quelque sorte, c'est-à-dire de négocier un projet de loi qui lui convienne, alors que c'est justement un syndicat qui vous a accompagné dans des réformes qui n'étaient pas toujours faciles à faire passer?
Myriam El Khomri a discuté beaucoup avec l'ensemble des partenaires sociaux. Je l'ai moi-même fait. Laurent Berger, par exemple, le secrétaire général de la CFDT...
Il est contre, hein, il le dit.
Le secrétaire général de la CFDT approuve beaucoup des mesures qui sont dans ce texte.
Ah non, il est globalement contre.
Il approuve beaucoup de ces mesures.
Il a dit clairement dans Le Monde il y a trois jours.
Il approuve bien sûr tout ce qui est, ce qui n'est pas le cas parfois des organisations patronales, mais il approuve par exemple pleinement le compte personnel d'activité qui va être un élément très important de ce texte.
Est-ce qu'on peut faire passer une réforme comme celle-là sans les syndicats ?
Il approuve l'idée de la consultation des salariés. Il approuve l'idée qui était dans le rapport Dicombe-Brexel que j'avais demandé à ce grand spécialiste du droit du travail il y a plusieurs mois, que la négociation avec des accords majoritaires se fasse au niveau de l'entreprise. Et Laurent Berger, je le connais bien, il ne sera jamais dans un débat caricatural. Il a des désaccords.
Il y aura des amendements possibles
Il a des désaccords avec le texte, mais moi je veux convaincre et les partenaires sociaux et les parlementaires. Et encore une fois, mon problème n'est pas celui de la réconciliation. Je suis tourné résolument vers les Français pour les convaincre que ce texte est utile pour notre économie et pour eux.
Allez répondre dans un instant aux auditeurs, mais une dernière question. Est-ce que vous pensez à Alain Juppé, 1995, qui a dressé la France entière contre lui, peut-être avec des idées qui étaient bonnes, mais qui néanmoins n'ont pas été acceptées? Et que répondez-vous à ceux qui vous disent que vous préparez l'échec électoral définitif de François Hollande, un suicide électoral?
C'était drôle d'analyse. Alors, moi, je suis convaincu que la France fait face à des défis considérables et que nous devons changer la manière de faire la politique, de nous adresser les uns aux autres. Nous avons une menace terroriste majeure, un défi migratoire qui peut faire exploser la construction européenne. Il y a des difficultés économiques pour notre pays qui doit rentrer pleinement dans ce qu'est la réalité du monde. La mondialisation, la révolution informatique, la transition écologique. Et pour cela, nous devons nous donner les moyens, nous devons armer le pays face à tous ces défis.
Droit dans vos bottes,
et donc, non, je n'utilise pas ce type d'argument, parce que si je crois précisément au dialogue social dans l'entreprise, c'est que je crois, d'une manière générale, au dialogue avec les partenaires sociaux comme avec les parlementaires. Mais je suis convaincu que ce texte, qui va connaître bien sûr un certain nombre...
Il pourra être changé, amendé.
Mais il y aura des amendements, il y aura des modifications.
Pas de suicide électoral.
Nous sommes dans une démocratie. Mais je veux convaincre mes compatriotes que nous devons sortir d'un certain nombre de blocages, qu'il faut réformer ce pays, que nous allons le réformer jusqu'au bout. Et donc moi, je ne pense pas à un horizon électoral, je ne pense pas forcément uniquement à la gauche, même si j'en suis, mais je pense d'abord aux Français et à moderniser la France.
Ce texte n'enlève aucun droit aux salariés, il facilite les choses pour les entreprises. Cette loi ne met pas en cause ni les 35 heures, ni les CDI, viennent nous dire Manuel Valls. Merci à tous les trois. L'entretien est bien entendu à réécouter et à retrouver, comme chaque jour, sur le site rtl.fr. Et monsieur le Premier ministre, vous restez avec nous, puisque à partir de 8h10, vous allez dialoguer avec les auditeurs d'RTL. Tout cela se passe au 3210.